Bonsoir. Le ministre de l'Industrie et le Fonds de promotion de l'Industrie FPI en sigle ont lancé au début de ces mois à Kinshasa le programme d'urgence de soutien à l'industrie locale. Selon le ministre de l'Industrie, ce programme va notamment permettre la création des zones économiques spéciales et l'octroi des prêts aux industriels à travers le FPI. Quelle analyse faire de cette initiative? Nous en parlons avec Germain Kambinga Katomba, il est ministre de l'Industrie. Bonsoir, monsieur le ministre Germain Kambinga Katomba.
Bonsoir.
André Massoumboubaya, il est député national de l'opposition et cadre du parti politique Renaissance du Congo, RECO, en sigle. Il est aussi membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable André Massoumboubaya.
Bonsoir, Guy.
Michel Somouin, il est analyste économique. Bonsoir, monsieur Michel Somouin.
Bonsoir, Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Lancement par le gouvernement du programme d'urgence de soutien à l'industrie locale. Pour le ministre de l'Industrie, ce programme va permettre notamment la création des zones économiques spéciales et l'octroi des prêts aux industriels à travers le FPI. Le ministre indique que les fonds de promotion de l'industrie devraient désormais être utilisés pour mettre sur pied d'autres structures qui doivent contribuer au développement du secteur industriel. Les détails avec Berry Franklin Louchaka.
La création du programme d'urgence de soutien à l'industrie locale s'inscrit dans le cadre des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement congolais pour la relance économique de la RDC dont l'économie est quelque peu secouée par la chute des cours des matières premières. En lançant ce programme, Germain Kambinga explique qu'il y aura un soutien accru qui sera accordé aux entrepreneurs nationaux et aux industriels congolais. Le ministre de l'Industrie affirme que les opérateurs économiques de son secteur et qui sont nationaux auront accès au crédit au niveau du fonds de promotion de l'industrie. Quant à cette structure, le fonds de promotion de l'industrie, justement, il sera utilisé comme
un instrument mis au service de la création d'autres structures devant également contribuer, comme cela se fait dans d'autres pays, au développement du secteur industriel. Nous aurons donc à l'avenir le fonds de promotion de l'industrie qui va continuer à exercer ses tâches d'accompagnement du gouvernement et des nationaux, le gouvernement dans le cadre des projets structurants et les nationaux dans le cadre du financement des industries.
À en croire Germain Kambinga, le fonds de promotion de l'industrie devra être dans l'avenir une banque d'investissement industriel qui aura une fonction plus spécialisée et plus compétitive.
Merci Berry Franklin Louchaka, Germain Kambinga Katomba, ministre de l'Industrie. Quelles sont les motivations, n'est-ce pas, qui sous-tendent cette initiative?
Écoutez, la responsabilité du gouvernement de la République, c'est de mettre en place les appareillages nécessaires pour rencontrer effectivement la problématique de la stabilisation, si vous voulez, du budget de l'État suite à la chute du cours des matières premières. Disons que d'une manière générale, chaque ministère a reçu des instructions très précises du chef du gouvernement à travers une matrice d'instructions pour mettre en œuvre les appareillages pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Dans le cas d'espèce, le ministère de l'Industrie souhaiterait en tout cas utiliser l'instrument qu'il a en sa possession, ça veut dire le fonds de promotion de l'industrie, pour atteindre deux objectifs. Le premier, un meilleur accès ou améliorer l'accès des nationaux au financement pour la création de nouvelles unités industrielles ou pour l'agrandissement des unités industrielles existantes, d'une part, et d'autre part, un phasage des fonds dont dispose le fonds de promotion de l'industrie avec les priorités du gouvernement, notamment dans le secteur, dans le domaine de la création, si vous voulez, des zones économiques spéciales, des parcs agro-industriels, toutes choses qui, d'une manière générale, aurait un effet propagateur sur cette priorité gouvernementale qu'est le développement de l'agro-industrie.
Oui, monsieur le ministre, ce programme qui a comme objectif notamment améliorer, comme vous venez de le dire, améliorer l'accès des nationaux au financement, s'inscrit dans le cadre des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement pour la relance de l'économie nationale, secouée par la chute des cours des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été l'impact de la crise économique mondiale sur l'économie congolaise?
Il n'est un secret pour personne que l'économie congolaise est une économie extravertie. Les efforts en termes de cadrage macroéconomique et de stabilisation d'une manière générale des finances publiques ont permis au gouvernement de revenir à des standards. Maintenant, nous devons passer à une seconde phase qui est celle de la diversification de notre économie. Parce que, effectivement, la dimension exogène et la très grande sensibilité des finances publiques aux chocs exogènes, ça veut dire aux crises qui peuvent être importées à partir du moment où nos revenus proviennent essentiellement des mines exportées à partir du Katanga, prioritairement. Cette crise a eu forcément un impact important. N'eût été la célérité avec laquelle, sur instruction du président de la République, le chef du gouvernement encadre les dépenses publiques, nous aurions senti le coup avec beaucoup plus d'ardeur. Des mesures sont d'ailleurs prise par le gouvernement, la réduction du train de vie de l'État notamment, vous avez suivi la réunion interinstitutionnelle hier, et la rationalisation d'un certain nombre de dépenses, toutes choses qui démontrent à suffisante qu'effectivement des mesures macro-prudentielles ont été prises pour juguler cet impact qui est un impact fort et évident. Sinon, nous n'aurions pas eu toutes ces sessions gouvernementales pour mettre en place 28 mesures urgentes.
Monsieur le ministre, vous dites que cette crise a eu un impact important. Et vous comptez, j'ai lu un document qui dit que vous comptez passer par les FPI pour financer ces programmes urgents de soutien à l'industrie locale. Et vous pensez que le FPI est assez solide financièrement pour pouvoir, n'est-ce pas, compenser, n'est-ce pas, les effets néfastes de cette crise économique mondiale sur l'économie congolaise?
Non, il ne faut pas extrapoler l'induction. On parle de 28 mesures. L'implication du ministère de l'Industrie concerne la 15e et la 18e mesure essentiellement. Il y en a beaucoup d'autres. L'action ou les actions qui sont menées au ministère de l'Industrie ne sont pas exhaustives. C'est un maillon. Cela représente un maillon d'une chaîne de 28 mesures. C'est donc l'ensemble de ces mesures mises ensemble qui auront un impact macroéconomique significatif. Il ne s'agit pas ici d'extrapoler l'induction et de considérer que la seule action que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau du ministère de l'Industrie suffira. C'est une responsabilité parmi les autres responsabilités qui ont été dégagées à travers les 28 mesures.
Pour la matérialisation de ces projets, vous tablez sur les zones économiques spéciales qui doivent être créées. Vous ne pensez pas qu'au lieu d'envisager la création de ces nouvelles zones économiques spéciales, il serait, n'est-ce pas, plus aisé de procéder à la réhabilitation des limités industriels dont l'activité a été arrêtée suite au pillage de 1991?
Il ne s'agit pas simplement de créer, il s'agit simplement d'accélérer la mise en œuvre d'une priorité gouvernementale. La création des zones économiques spéciales est une priorité gouvernementale contenue dans le programme du gouvernement adopté en 2012. Le processus a suivi tout le parcours nécessaire, législatif et réglementaire. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre et ce sur quoi nous travaillons actuellement avec la primature, c'est effectivement trouver un appareillage définitif. Nous proposons l'intégration du FPI à travers le PUCIL, mais les arbitrages définitifs se feront de concert avec l'autorité gouvernementale, ça veut dire la primature. Donc l'idée, c'est simplement d'accélérer le processus de création des zones économiques spéciales, qui ne sont pas une nouveauté dans le monde. Nous inspirons de ce qui a marché ailleurs. Et considérant ces expériences réussies dans la sous-région, en Asie, en Chine et dans la plupart des pays émergents, nous essayons d'appliquer la même méthodologie. Ça veut dire créer à l'intérieur du pays une zone d'exception dans laquelle, avec des avantages précis, des infrastructures modernes, des industries pourraient se créer rapidement et atteindre des taux de croissance qui, généralement, sont plus élevés que le taux de croissance global. S'agissant de la zone industrielle de l'UMT, c'est une problématique autre que celle de la création des zones économiques spéciales. C'est une problématique qui, elle, sera résolue à travers des réformes structurelles déjà mises en œuvre. Ça veut dire notamment l'amélioration du climat des affaires.
Merci.
L'amélioration, si vous voulez, du climat des affaires qui transite par la facilité qui est dorénavant accordée aux uns et aux autres dans la création des entreprises. On parle ici du guichet unique, autant de résultats positifs.
Merci, monsieur le ministre.
Réformes à mettre à l'actif du gouvernement Matata.
Merci André Massoumbou Baya, député national de l'opposition et cadre du parti politique Renaissance du Congo Réco en sigle. Vous êtes aussi membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Et comment vous réagissez à cette initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie?
Bien, je vous remercie Guy. Et heureusement que le ministre vient de corriger en disant que il n'y a pas création de zones économiques spéciales, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, lui-même était là d'ailleurs, nous avons pu mettre en place une loi créant les zones économiques spéciales. Et donc, le gouvernement a l'obligation de mettre en place toutes ces zones économiques spéciales pour permettre à ce que le Congo puisse rayonner comme d'autres pays émergents. Mais il faut une politique progressive, un plan qui permettra bien sûr à chaque zone de se réaliser. Ça ne va pas être des théories, mais il faut qu'on y aille zone par zone. Et comment le gouvernement va pouvoir appliquer sa politique dans chaque zone? Parce que l'industrialisation, il dit que c'est à travers le FPI qui est un instrument qui peut améliorer le financement au niveau des nationaux. C'est une très bonne chose. Mais il faut voir quels sont les obstacles de cet instrument, donc qui est la FPI, et au niveau des financements de petites, ou pardon, des industries locales.
Et là, quels sont ces obstacles à votre avis?
Ben, il y a plusieurs obstacles. Mes collègues sont passés, par exemple, au niveau des FPI. On a constaté une première des choses, c'est que les taux appliqués par le FPI varient selon la tête de l'industrie. Ça varie entre 6 à 12%, hein, c'est-à-dire 6, 7, 8. On l'applique d'une manière tout à fait individuelle de chaque industrie, mais ce n'est pas spécifique. Or, quand on veut octroyer un financement, il faut qu'il y ait au départ un taux fixe pour tout le monde. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, il y a des échéanciers et des remboursements qui ne sont pas respectés. Vous savez, Guy, nous avons eu dans ce pays plusieurs banques, comme la Sofide, hein, et le fonds de convention, la banque de crédit agricole et autres, qui n'ont pas pu tenir parce que quand on octroie des crédits, on regarde le système politique. Donc le politique domine dans l'obtention des crédits. Alors que ce sont des industriels, selon la rentabilité, selon la profitabilité et selon sa place au niveau industriel, qu'il faut accorder nécessairement les crédits. Or, les FPI, on a constaté qu'il a accordé plus de crédits aux opérateurs politiques.
Donc les interférences politiques tuent l'entreprise publique.
Tout à fait. Il y a eu aussi complaisance dans tout cela. Il y a eu des complaisances selon le rapport de l'Assemblée nationale. Il y a des complaisances dans l'octroi des crédits. Et le déblocage, c'est fait par tranche. Quand vous promettez à un opérateur 2 millions ou 1,5 million de dollars et vous les libérez progressivement et la personne a déjà un plan, un business plan qui prévoit que dans 3 mois il va recevoir 500 000 et puis le reste sera donné 6 mois après et puis après il commence un projet et que ce financement n'arrive pas et l'opérateur est en difficulté de pouvoir réaliser son programme et ça c'est un obstacle.
Et donc vous concluez que compte tenu de tous ces problèmes, de toutes ces raisons, le FPI ne sera pas en mesure, n'est-ce pas, de soutenir cette industrie locale?
Absolument. Et quand tu regardes, Guy, regardez les investissements, combien le FPI donne aux opérateurs, aux industries. J'ai regardé sur 8 ans, ou sur 8 ans de 2008 à 2014, c'est selon les rapports. Mais on constate qu'on a octroyé 600 millions de dollars. Mais Guy Maté, demandez-moi, l'encours que les opérateurs n'ont pas pu rembourser, c'est 300 millions, la moitié. Alors tout cela, on voit très bien que c'était tout à fait difficile avec 600 millions. On ne sait pas nécessairement booster l'industrie nationale. Et c'est pourquoi je disais au départ qu'il faut y aller progressivement par zone économique spéciale. Parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources, lui-même vient d'en parler, les difficultés que le gouvernement a rencontrées sur le plan économique suite à ces chocs mondiaux, et bien, notamment de mines et du pétrole, et bien, tout cela freine. L'argent ne se voit pas facilement au niveau des grandes banques du monde.
Honorable Blossombrou, il faut quand même reconnaître que par cette initiative, le gouvernement montre qu'il est capable, n'est-ce pas, de s'adapter à un contexte international difficile. N'est-ce pas que c'est une initiative qu'il faut saluer et encourager?
Non, il ne faut pas prendre seulement des initiatives. Mais il faut te dire, est-ce que tu as le moyen de ta politique? Hein, parce que vous pouvez prendre l'initiative, je veux appliquer une telle zone économique spéciale, mais entre-temps, vous n'avez pas le moyen de pouvoir le mettre en place. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans les théories. Il faut nécessairement rester sur le plan pratique. Quelle est la zone économique spéciale que le gouvernement veut mettre en place pour le moment? Pas les 5 zones. Il est impossible, parce que nous n'avons pas de revenus. Nous l'avons fait dire.
Merci Michel Sommouin, analyste politique. Comment vous analysez ce programme d'urgence de soutien à l'industrie locale initié par le gouvernement, élaboré par le gouvernement congolais?
Je pourrais arrêter mon intervention sur trois thèmes. D'abord sur le programme lui-même tel qu'il s'appelle le programme d'urgence de soutien à l'industrie locale. Ensuite, sur les composants de ce programme, si j'ai bien compris, en tant que sens, il repose sur la création des zones économiques spéciales et sur l'octroi des crédits par le biais du FPI. Quand on parle du programme d'urgence de soutien à l'industrie locale, ça me rappelle qu'il y a un peu plus d'une année, si ma mémoire est encore fidèle, Monsieur le ministre m'a fait l'honneur de compter parmi les gens qui ont été invités à intervenir dans un forum qu'il a organisé sur le développement de l'industrie locale il y a un peu plus d'une année, auquel forum le FPI lui aussi devait faire son intervention. Et je crois me rappeler que toutes les analyses qui avaient été faites au courant de ce forum avaient révélé suffisamment de faiblesses et de difficultés auxquelles le gouvernement congolais est en train de buter pour l'émergence effective des industries locales. Et l'ADG du FPI ne s'était pas lui-même voilé la face pour dire des vérités qui le concernaient.
Quelles étaient ces vérités?
Les difficultés qu'il a, notamment la précarité de ses moyens pour pouvoir intervenir. Outre la précarité des moyens, il y a le fait que la capacité du FPI de recouvrer les créances après avoir prêté de l'argent aux gens...
Sur 600 millions octroyés, les gens n'ont remboursé que 300 millions, donc la moitié.
Exactement. Donc c'est autant de difficultés que le FPI éprouve qui ne sont pas dues aux problèmes forcément internes au FPI, mais aussi au cadre général dans lequel cette entreprise évolue. Je voulais commencer par me dire qu'est-ce que les résolutions de ce forum ont donné aujourd'hui pour que le ministre nous parle d'un nouveau programme de soutien à l'industrie locale. Qu'est-ce qu'il a déjà appliqué des premières résolutions et quels sont les résultats? Et nous savons que ce forum avait été décidé dans le cadre de la campagne que le ministre lui-même menait sous le slogan, moi j'appelle ça slogan, il n'a pas aimé le terme slogan, lui-même l'avait corrigé plusieurs fois, mais excusez-moi, je ne vois pas un terme plus approprié que celui de slogan, qui disait « Made in Congo ». Mais depuis lors que le ministre a commencé cette campagne de Made in Congo, qu'est-ce que c'est devenu? Où est passé le Made in Congo? Parce que le ministre Kambinga, je ne l'entends plus jamais parler du Made in Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau programme d'urgence de soutien à l'industrie locale.
Comme il est là, il va nous en parler.
C'est pour ça que je parle justement, c'est parce que je sais qu'il est en train de me suivre. Ça, c'est en ce qui concerne le programme. Maintenant, le contenu du programme, lorsqu'on parle des zones économiques spéciales, j'ai le privilège de me trouver aujourd'hui en face de l'honorable député André Massungu, c'est ça, qui vient de rappeler à ma mémoire qu'il existe une loi sur la création des zones économiques spéciales. C'est un thème qui est, me semble-t-il, assez délicat, tout comme celui d'ailleurs pour le programme dans son ensemble, parce que je voudrais aussi espérer que le programme d'urgence tel que arrêté par le ministre repose, je le suppose, sur des études sérieuses qui doivent avoir été faites. J'espère que ces études ont été faites et que ces études peuvent être rendues disponibles pour que nous puissions y accéder et avoir la possibilité de mettre un point de vue plus ou moins objectif. Alors quand je reviens aux zones économiques spéciales, je voudrais dire que ce sont des expériences, bien sûr, qui se sont répandues à travers le monde, au point qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a trois quarts des pays du monde qui disposent d'au moins d'une zone économique spéciale. Mais pourquoi forcément la RD Congo doit-elle se doter d'une zone économique spéciale? Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé de savoir que nous sommes nous-mêmes comme pays, la RDC elle-même est considérée par rapport au monde entier comme étant une zone économique spéciale, nous-mêmes? Est-ce que nous avons cette conscience-là?
C'est-à-dire?
Parce que, autrement, nous sommes en train de faire comme un papa qui est assis dans sa cour en train de lire son journal pendant que les enfants qui jouent au foot se servent de lui comme du deuxième poteau pour leur jeu de football. Et lui ne sait pas qu'il joue un rôle là-bas, parmi eux, lui est occupé à lire son journal sans comprendre ce que les autres lui font jouer comme rôle. Est-ce que nous avons jamais compris que le Congo n'a été créé que pour être une zone économique spéciale? Mais quand on parle même des zones économiques spéciales, en tant qu'espace géographique,
En fait, c'est une émission aussi pédagogique. C'est quoi une zone économique spéciale? En des termes clairs.
En fait, c'est un espace géographique bien délimité. Il y en a qui ne mesurent que quelques hectares, il y en a qui vont jusqu'à quelques kilomètres carrés, mais c'est un espace géographique identifié dans lequel le gouvernement installe un certain nombre de mesures incitatives, commençant par un cadre juridique fiable, des infrastructures de qualité, une fiscalité préférentielle pour stimuler les agents économiques à venir investir dans cette partie-là. Donc, une partie qui bénéficie d'une réglementation particulière, avantageuse, simplement parce que, pour aller plus loin, c'est une zone économique spéciale, c'est cet espace géographique vers lequel on veut appliquer un libéralisme économique un peu plus poussé. C'est ce qu'il faut dire. Mais avec comme conséquence le fait que la création des zones économiques spéciales entraîne inévitablement des disparités entre ces zones économiques et le reste du pays, des déséquilibres. Parce que vous avez d'un côté une partie du territoire, une petite partie, une étroite partie étendue, peut-être même d'une simple ville, comme la ville de Kinshasa, on identifie exactement, par exemple, la commune de Limité, précisément la cité de Kingabwa, pour dire, voilà, on fait de Kingabwa la zone économique spéciale, on concentre les investissements dans cette zone-là, industrielle et autres, avec des lois particulières, mais j'insiste, qu'il y ait un cadre juridique bien stable qui garantisse justement la sécurité des investissements, qu'il y ait des avantages fiscaux énormes pour permettre aux gens de quitter Ngaba pour venir s'installer à Kingabwa spécialement. Mais il faut savoir que pour un pays comme la RD Congo, installer une zone économique spéciale a des coûts énormes. Des coûts
Merci.
Énormes.
Monsieur le ministre Germain Kambinga, vous allez réagir aux propos de l'honorable Massungu et de monsieur Michel Somoué, mais avant, vous réagissez, n'est-ce pas, à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis la province de la Tchopo à Kisangani. Très bonne initiative, mais ça n'aura pas d'impact au moment où et le ministère de l'Industrie et les FPI, politiquement les exécutants ou bénéficiaires de ce projet, seront toujours les membres ou structures du pouvoir en place. Nous sommes très fatigués et déçus des exécutions des programmes ou projets de cette institution à qui 20% seulement déjà a bénéficié 10 ans après. C'est ça qui a fait que les FPI puissent perdre plus de 100 millions de dollars dernièrement et jusqu'aujourd'hui aucun trace malgré leur dénonciation. Donc, c'est du copier-coller.
Monsieur le ministre Germain Kaminga.
Oui.
Oui, votre Bonjour. Réaction par rapport à cette réflexion de Pepe Lisungi de Kisangani.
Écoutez, c'est une réaction de pessimisme que nous venons d'enregistrer, mais au pessimisme, nous aimerions être jugés sur des faits. Il est évidemment certain que des correctifs doivent être apportés à quelques niveaux pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur phasage entre la disponibilisation d'un certain nombre de financements et les impératifs de remboursement. Mais ceci nous ramène également à l'intervention précédente de mon ancien collègue député. Pour corriger à ce niveau, je voudrais simplement corriger quelques chiffres. Lorsque on parle des impayés de l'encours des impayés du FPI, ce n'est pas 300 millions, mais je crois un peu plus de 140 millions. Et ce n'est pas le résultat de 8 ans, mais bien une accumulation d'un certain nombre d'impayés depuis la création de cette institution.
Mais 140 millions, c'est quand même beaucoup, monsieur le ministre.
Mon intervention n'est pas faite pour nous exonérer de notre responsabilité de faire mieux. Mais lorsqu'on donne des chiffres, donnons les bons chiffres. Lorsqu'on donne des dates, donnons de bonnes dates. C'est le point de départ d'une analyse objective de mon point de vue. Maintenant, moi j'intègre tout à fait toutes les préoccupations de mon ancien collègue. Je suis ici dans ce débat non pas pour ouvrir une contradiction, mais bien pour présenter une vision qui est en finalisation au niveau du gouvernement. Tous les apports sont les bienvenus. Je voudrais également à ce stade rassurer Monsieur Somoué, dont la sagacité intellectuelle n'est plus à prouver, simplement à rappeler que le Made in Congo, je l'ai toujours dit, ce n'est pas un slogan. Il ne faut pas confondre la campagne et les actions réglementaires, les actions structurelles qui sont mises en œuvre. Il y a eu une phase dédiée à la campagne qui était nécessaire, c'est l'approche IEC, information, éducation, communication, mais il y a une phase qui, elle, ne nécessite pas de publicité, c'est la phase réglementaire. Lorsque nous avons fait adopter le décret portant, si vous voulez, mise en valeur, donnant plutôt un avantage compétitif aux industriels locaux par rapport aux importations via la commission tarifaire du gouvernement, on n'a pas besoin de publicité, c'est un encouragement pour le Made in Congo. Lorsque nous avons remis sur pied, si vous voulez, la commission nationale de normalisation pour que la qualité des productions locales s'améliore et que, si vous voulez, l'attrait des nationaux pour les produits importés diminue, c'est du Made in Congo. Lorsque nous avons fait revenir et signer de manière formelle avec l'ONUDI deux programmes majeurs, le PRMN, le programme national de mise à niveau des entreprises locales, et le PICAC, le programme d'Afrique centrale pour la qualité des infrastructures de production, c'est du Made in Congo. Ça veut dire que c'est des instruments mis en œuvre pour faire en sorte que les industries locales soient plus efficaces. Et lorsque aujourd'hui, à travers le plan d'urgence que nous, sur lequel nous travaillons et qui sera, je l'espère, dans les jours prochains totalement finalisé après les arbitrages de la primature, lorsque nous allons atteindre cet objectif, ça veut dire permettre à des nationaux d'avoir un accès encore plus facile au crédit et aux subventions via une utilisation beaucoup plus patriotique, j'ai envie de dire, de la taxe de promotion de l'industrie, ce sera encore du Made in Congo. Lorsque nous travaillons ardemment pour la mise en œuvre, pour la mise en place des zones économiques spéciales qui seront, et il a très bien défini, M. Somoué, des espaces privilégiés pour le développement des industries en République démocratique du Congo.
Merci, M. le ministre.
Ces produits seront estampillés Made in Congo, une fois encore. Donc il y a une cohérence, il y a une logique entre ce que nous avions dit à l'époque, les résolutions du FONADIR, et ce que nous sommes en train de faire.
Merci,
nous
n'oublions
jamais que la problématique industrielle est une problématique structurelle. On ne va pas nous demander de réindustrialiser le Congo en une année.
Merci, on a compris, Monsieur le ministre.
Nous avons mis les jalons et nous sommes au travail et toutes les contributions sont les bienvenues.
Merci, Honorable Massoumbou. Il y a une réflexion aussi émise pour vous. Elle vient de Lubumbashi.
Maxime Kabila, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Si depuis longtemps le FPI octroyait des prêts aux industriels et non aux individus, il ne pouvait nullement pas avoir des problèmes de remboursement comme il l'a connu avec les prêts qu'il donna aux individus qui, jusque-là, n'ont pas pu mettre en place même un mètre carré d'une activité économique de production des biens et des services. Je pense que cette façon de faire, c'est-à-dire octroyer des prêts aux industriels, va être la source de création d'emplois et cela est porteuse de germes qui va booster l'économie de la RDC. Vraiment, il y a lieu d'encourager cette initiative qui, selon moi, est entre autres la voie de l'émergence de la RDC d'ici 2030.
Honorable Massoumbou.
Oui, je vais dire que je réponds d'abord au ministre pour lui dire que on ne va pas faire un débat des chiffres. Effectivement, quand je regarde le rapport, oui, on parle de 140 millions, mais il y a...
Ça, c'est les rapports de la commission parlementaire
Au niveau
la commission d'enquête.
La page 57, ils ont fait des tableaux. Le premier, ça dégage 130 milliards en francs congolais. Et puis en bas, je vois 188 millions en dollars. Bon, ça, c'est les rapports. Bon, mais ce qui est essentiel, ce ne sont pas les chiffres, mais moi, plutôt, je constate que au niveau de l'octroi, au niveau de la gestion de la FPI, il y a des problèmes et qu'il faut nécessairement corriger. Et il a reconnu lui-même qu'il mettra en place une nouvelle organisation au niveau des FPI. Mais ensuite, il faut quand même avoir des ressources. Des ressources parce que si le FPI, à part la taxe qui existe, ne permettra pas à réunir un montant suffisant pour financer les industries, du moins de ces zones économiques spéciales, ben, il faudrait y aller par palier, aller doucement. Parce que la loi telle que nous l'avons votée, c'était quand même 5 zones économiques spéciales au niveau de la République. Et s'il faut les appliquer, vraiment, comment les FPI va trouver de l'argent? Et entre-temps, le gouvernement est en train de dire qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir équilibrer l'économie nationale. Donc, il faudrait nécessairement chercher des emprunts à l'extérieur, afin que ces zones soient réellement opérationnelles et permettent, effectivement, de créer des emplois, d'avoir de nouveaux équipements au niveau de leurs industries et qui va permettre une certaine éclosion sur le plan industriel.
Honorable Massoumbou, vous êtes député national. Quel pourrait être l'apport, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale dans la réussite de cette démarche?
Non, c'est plutôt le gouvernement qui doit venir avec des propositions. Un programme pareil, il vient avec une proposition. Avec cette proposition, on va voir quels sont les conseils qu'on peut prodiguer au gouvernement pour réussir ces programmes des zones économiques spéciales.
Donc, mais c'est sinon, ce qui devait être fait en amont.
En amont, oui. Et quant à l'auditeur
de Lubumbashi, parce qu'il faut saluer cette initiative.
Oui, on salue tous, mais il ne faut pas que ça soit des mots. Il faut que ça soit des choses réelles. Au niveau de l'économie, ce ne sont pas des théories, mais il faut être pragmatique. Mais il veut utiliser l'instrument des FPI. Mais j'ai donné des obstacles au niveau des FPI. Comment maintenant corriger au niveau de ces obstacles? Le gouvernement doit trouver des mesures, et au niveau humain, et au niveau, si vous voulez, matériel, et pourquoi pas financier. Donc, si sur le plan humain, au niveau du FPI, il y a des obstacles, donc des problèmes, il faut nécessairement les corriger. Si au niveau matériel, c'est-à-dire sur le plan national, et que FPI n'est pas implanté dans l'ensemble du pays, bon, il faut nécessairement aussi donner des moyens, y construire des immeubles et implanter des gens dans ces différentes zones afin de faire des études appropriées. Parce que créer une industrie dans un milieu qui n'est pas propice, ben l'industrie ne pourra pas donner de très 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 bons résultats. Et donc, il faut voir dans quelle partie, comme le disait Michel
Somouet,
comme il le disait, il faut nécessairement, sur le plan du programme, l'étudier minutieusement, puisque ça a été déjà fait dans un forum, mais tout ce qui a été dit dans ces forums-là, que j'ai entendu ici, Made in Congo, ben, ça n'a jamais été appliqué.
Merci.
Maintenant, il revient sur ces programmes-là.
Merci, Michel Somouet. Il y a une réaction pour vous. Elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Bénédiction, Miigo, de Bukavu, dans la province du Kivu. À mon humble avis, je pense que son excellence, monsieur le ministre de l'Industrie, met la charrue devant le bœuf dans la mesure où le pays est dépourvu jusque-là d'industrie. La preuve en est que notre économie est extravertie, donc celle tournée vers l'extérieur. Les marchés congolais sont inondés par les produits provenant de l'extérieur. L'important à l'heure actuelle serait d'abord la mise en place d'un plan concret et réaliste pour pouvoir contribuer à l'émergence de l'industrie congolaise dans son ensemble.
Michel Somouet,
je crois que dans les éléments de la question que pose le monsieur Bénédiction Mihigo depuis Bukavu, il y a un peu de contradiction. Lorsqu'il dit en même temps que le ministre met la charrue devant les bœufs, et en disant que nous sommes une économie extravertie, mais il ignore aussi quelque part que quand on parle de la zone économique spéciale, c'est essentiellement une zone qui est conçue principalement dans le but d'attirer des investissements directs des étrangers. Principalement. Même la Chine, quand elle a ouvert, parce que le ministre a donné l'expérience de la Chine, comme d'ailleurs la presque unique expérience véritablement réussie des zones économiques spéciales, je ne partage pas son optimisme quand il dit il faut dire plutôt que la plupart des zones économiques spéciales créées à travers le monde ont beaucoup de difficultés pour fonctionner et même pour exister. La Chine est un cas exceptionnel. Quand il parle de la Corée, il parle de l'Iran et des autres pays d'Asie, de la Russie même, je crois qu'il y a beaucoup d'échecs de ce côté-là pour les zones économiques spéciales. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai beaucoup de réserves. Mais il faut dire dans l'intervention de M. Mihigo.
Et donc, ce serait une contradiction de penser qu'à travers ces zones économiques spéciales, on pourrait booster l'industrie locale.
On doit réduire l'extraversion, non. Moi, au contraire, j'ai l'impression qu'on va l'accentuer. Je sais que le ministre ne sera pas d'accord avec moi sur cette question, mais c'est la vérité. Il sait que c'est vrai. En créant la zone économique spéciale, ils vont accentuer l'extraversion de l'économie parce que nous allons la fonder en espérant principalement attirer les investissements étrangers directs, bien que le ministre parle du financement du FPI dont il connaît lui-même la précarité des ressources financières. Et le FPI qui fonctionne dans un environnement monétaire qui est lui-même fissuré, précaire, caractérisé par une incurie particulière, je ne vois pas déjà dans un pays où le marché monétaire dégage un déséquilibre chronique et systématique entre l'offre et la demande, un pays dans lequel il n'y a pas d'institution de création de monnaie qui soit capable de répondre au dixième des besoins exprimés par l'économie, comment on va créer une zone économique spéciale, comment on va pouvoir donner au FPI la capacité de financer l'industrie locale, quand le FPI lui a des difficultés pour se financer, c'est important. Donc on va compter essentiellement sur l'apport des étrangers. Et c'est en partie pour ça qu'on ne veut pas éliminer la dollarisation dans notre économie. C'est parce qu'on a les yeux continuellement tournés vers l'extérieur qu'il faut laisser le dollar régner en roi dans notre pays, parce que c'est la condition pour que les étrangers arrivent chez nous, ils n'auront jamais confiance dans notre propre monnaie. À nous. Ça, ce sont des pièges que le gouvernement ne veut pas dénoncer à haute voix. Et nous savons quand même, quand on crée cette zone économique spéciale, il y a, même quand le ministre parle de son Made in Congo dont il parle là-bas, il a déjà distribué combien de brevets d'invention au Congo dans ce pays depuis qu'on a commencé cette campagne. Bon, bien sûr qu'il dit qu'il y a des phases, on va y arriver, peut-être, j'espère bien. Mais dans l'entretemps, je considère que dans les conditions actuelles de notre économie, nous engageons dans la création de zones économiques spéciales, c'est du simple mimétisme à la limite ridicule.
Monsieur Chouin, n'est-ce pas qu'il faut féliciter le gouvernement pour avoir osé, n'est-ce pas, prendre des mesures pour s'adapter à ces contextes économiques internationaux difficiles.
Non, le gouvernement, il faut le féliciter pour sa capacité de réciter les mesures, les intentions qui sont tous les jours formulées par tous les citoyens du Congo. Mais il faut reprocher au gouvernement son incapacité à mettre en place un cadre, justement, d'opérationnalisation des mesures qu'il prend pour rencontrer les aspirations de la population. Parce que aujourd'hui, ce qui est vrai est qu'on parle de deux. Parler, par exemple, de deux problématiques que le ministre a soulevées, l'accès au financement pour les industries locales et l'emphasage dont il a parlé du FPI avec le programme du gouvernement. Quoi de plus noble? C'est tout ce que le monde voudrait voir se réaliser. Mais le ministre sait que ce qu'il dit aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. Les zones économiques spéciales même dont il a parlé en remontant à l'an 2012. Le ministre Kambinga, il est plus jeune que moi, je sais le comprendre, mais il oublie qu'à l'époque de Mobutu déjà, on avait parlé de zones économiques spéciales. Il sait qu'en 2010, on a parlé de zones économiques spéciales avant qu'il n'arrive dans le gouvernement Matata, avant à l'époque de Mobutu, on a reparlé. Mais pourquoi on ne le fait pas?
Monsieur le ministre Jérémie Kambinga Katumba, quels sont les atouts, n'est-ce pas, que détient ces programmes pour qu'ils puissent se concrétiser?
Écoutez, quelques chiffres. Hein. La Chine, c'est 190 zones économiques spéciales.
Oui.
L'Asie, sans la Chine, c'est 280 zones économiques spéciales. L'Amérique du Nord, c'est 266.
C'est pas un peu plus
L'Amérique
plus
centrale, 228. L'Europe, 161 zones économiques spéciales. L'Afrique, 67. Et le Congo, 0. Je crois que s'il y a autant de zones économiques spéciales à travers le monde, ça veut dire que ce sont des stratégies qui, elles, sont payantes. Nous avons défini cela comme une priorité gouvernementale. C'est inscrit dans le programme du gouvernement et notre devoir, quelles que soient les contraintes auxquelles nous avons à faire face, c'est de repousser justement les limites du possible. C'est ça le rôle du gouvernement. C'est de donner le meilleur de lui-même pour arriver à atteindre un certain nombre d'objectifs. Est-ce que le FPI a les moyens? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas, je l'ai dit dès le départ, extrapoler les inductions. Lorsque nous prônons une implication du Fonds de promotion de l'industrie comme accompagnateur de ce processus, il faut d'abord savoir qu'il ne s'agira pas du seul FPI, mais du FPI comme moteur, instrument du gouvernement, c'est ça l'idée générale, mais qu'ensuite l'appel à l'investissement direct étranger est évidemment inévitable. Aucune zone économique spéciale ne se fait sans cet apport extérieur.
Monsieur le ministre,
si vous regardez ce qui se fait au Gabon, si vous regardez ce qui se fait au Congo-Brazza et en Afrique du Sud et dans la plupart des pays.
Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de l'émission. À conclusion, votre conclusion?
Notre conclusion, c'est que le gouvernement est au travail pour finaliser, sous le leadership du Premier ministre, tous les appareillages nécessaires pour que le PUCIL, le plan d'urgence de soutien à l'industrie locale, soit mis à la disposition du peuple congolais dans un délai de temps tout à fait raisonnable. Donc, restons optimistes, nous sommes au travail.
Honorable André Massoumbou, votre conclusion?
Ben, je constate que le FPI est vraiment, compte tenu de sa situation financière, il a l'incapacité de pouvoir financer.
Le ministre dit qu'il n'y a pas que le FPI.
Et s'il faut compter sur les investissements directs font allusion aussi à la situation politique d'un pays. Et lorsque la situation politique, la démocratie est douteuse, eh ben, les investisseurs ne viendront jamais.
Et donc, à votre avis, ce programme n'a pas assez d'atouts?
Ben pour moi, écoutez, nous avons commencé ce programme même du gouvernement de 2012 à 2016. On n'est même pas arrivé à la moitié de sa réalisation. Et comment on peut parler de programme des zones, programme économique spécial dans ces pays aujourd'hui? Non, je crois que c'est une bonne idée d'avoir spéculé un peu, d'avoir fait un exercice intellectuel, mais nous ne sommes pas certains que ça sera réalisé avant la fin de leur mandat.
Merci, monsieur Michel Somoy. Quels sont les facteurs de réussite, n'est-ce pas, de ces programmes du gouvernement?
Il faut voir ceux qui ont réussi. C'est la Chine qui a réussi. La Chine a commencé par disposer d'un portail d'accueil des investissements étrangers qui était Hong Kong. Et quand on n'a pas des investissements étrangers, c'est d'abord principalement, au départ, 70% des investissements étrangers, c'était des Chinois eux-mêmes, qu'on appelle encore la diaspora chinoise à l'étranger. C'est d'abord eux-mêmes qui ont investi dans leur pays, qui ont créé leur pays. Et en troisième lieu...
Et donc vous êtes pessimiste comme l'honorable Marcou qui estime que ça ne va pas marcher?
Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. parce que ce n'est pas parce qu'il y a plus de 4300 zones économiques spéciales dans le monde qu'on doit croire qu'il faut nécessairement en avoir au Congo. Et il faut encore faut-il dire que les zones économiques qui sont dans le monde sont un exemple d'échec catastrophique à travers le monde entier, excepté en Chine.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Berry Franck-Anelou-Tchaka et Kelly Nkouté sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.